Au XVIIIe siècle, dans la campagne anglaise, une jeune fille travaille avec sa gouvernante dans le château familial. Et la leçon du jour porte sur la monarchie. Et la petite fille est tellement contente d'apprendre tous les noms des rois et des reines qui ont régné sur son pays. Et puis tout d'un coup, son visage s'assombrit parce que, à la fin de la liste, au bout de la liste, elle voit son nom. Et elle regarde la gouvernante qui lui fait et la petite fille comprend que c'est elle, la prochaine reine. Elle sanglote un petit peu parce qu'elle voit tout d'un coup son innocence passer. Et puis elle se redresse et elle regarde sa gouvernante et elle lui dit « À partir de maintenant, je serai toujours sage. » Cette petite fille s'appelait Victoria. Et elle devint reine, une reine très grande et très sage sur l'Empire britannique. Une belle histoire, me semble-t-il, qui illustre combien la prise de conscience que l'on peut avoir de son statut peut amener un nouveau comportement. Parce qu'elle apprend qu'elle sera reine, parce qu'elle se sent qu'elle se sait reine, Victoria, petite fille, prend la décision d'être sage. Une nouvelle vie commence parce qu'elle a compris qui elle était vraiment. Et une histoire qui vient illustrer, me semble-t-il, très bien le grand virage que prend Paul dans sa lettre qu'il adresse aux chrétiens de Colosse. Et nous continuons cette série sur la lettre que Paul écrit aux chrétiens de Colosse, notre parcours dans cette lettre. Et on a déjà parlé des deux premiers chapitres, nous avons commencé en janvier, je crois, on prend notre temps. Et dans ces deux premiers chapitres, on pourrait dire que Paul fait de la théologie positionnelle. En tout cas, il parle de notre position en Christ, notre statut en Christ, notre identité en Christ. Et il commence en disant, déjà au chapitre 1, verset 13, « Dieu nous a fait passer du pouvoir des ténèbres au royaume de son Fils. Vous êtes dans le royaume du Fils maintenant. » Et au verset 22, il nous a réconciliés avec lui-même par le sacrifice de son Fils Jésus. Et puis en 2:10, c'était la prédication, la dernière prédication sur Colossiens, c'était le 19 mai 2019. Nous avons vu ce verset clé, Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Votre identité est bien établie en Jésus-Christ. Votre position, vous êtes bien positionné en Jésus-Christ et donc ne vous laissez pas intimider par le mysticisme, par le légalisme, par l'ascétisme. Vous vous souvenez ? Paul nous faisait un zeste de prévention. Alors vous pourriez dire qu'il s'agit juste de théologie positionnelle et que ça n'a pas grand-chose à faire avec notre vie aujourd'hui. Oui mais non. Parce que la théologie positionnelle ou la conscience de notre position en Christ est vraiment extrêmement importante dans notre vie chrétienne. Dans la vie chrétienne se passe au niveau de notre position et de notre identité, de notre nouvelle identité en Christ. L'adversaire, celui qui a saboté notre montage diapo, va tout faire pour nous déstabiliser, pour nous intimider, pour saper notre position ou la position que nous avons en Christ. Et il vaut donc la peine de se rappeler qu'en Christ, nous sommes bien positionnés. Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Et Paul donc ne ménage pas ses efforts pour le faire. Mais à partir du chapitre 3, il va opérer un grand virage et il va nous entraîner vers la pratique, vers les conséquences de cette position, de ce positionnement en Christ, de cette identité. Il va y avoir, comme pour Victoria, la reine Victoria, des conséquences dans la vie concrète. Et donc dans le chapitre 3 et 4, Paul va nous parler de la vie quotidienne, de notre comportement et des changements dans notre comportement. Il va parler des relations interpersonnelles, il va parler de sexualité, il va parler de la vie de famille, il va parler de la vie professionnelle. Comme conséquence de ce nouveau positionnement en Christ, de ce positionnement en Christ qui est déjà là. Mais dans les quelques versets que nous avons lus, donc le chapitre 3, les versets 1 à 4, on n'est pas encore dans la pratique, on est dans quelques versets de transition, et il va nous rappeler quelques éléments de théologie positionnelle. D'abord, premier verset, « Mais vous êtes ressuscité avec le Christ ». Et vous notez le temps de la phrase. Ce n'est pas le futur, c'est vraiment le présent. Et c'est l'indicatif présent. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Vous êtes déjà ressuscité. Nous sommes déjà ressuscités pour cette vie nouvelle. Vous êtes bien positionné dans les lieux célestes. Déjà ressuscité. Et puis, il y a un deuxième élément qui a trait à notre position en Christ, un peu plus loin, qui vient à la fin du passage, au verset 3. Votre vie est cachée en lui. On est avec Christ dans une position de sécurité, comme dans un abri, un refuge qui nous cache et qui nous protège en même temps. J'ai lu quelque part que dans certaines cultures, il existe des objets que l'on appelle des signes de vie. Et chaque individu a son signe de vie, et tant que cet objet est bien caché, enterré, mis dans un coffre-fort ou emmuré dans un mur, tant qu'il est bien caché, la vie de cette personne est en sécurité. Et je ne pense pas que Paul pensait à cela quand il écrivait aux Colossiens, mais cette histoire de signe de vie nous permet de mieux comprendre ce que veut dire notre vie est cachée en Christ. Jésus est en quelque sorte notre signe de vie, et quand notre vie est cachée en lui, gardée en lui, positionnée en lui, alors nous sommes en sécurité. Notre être, notre identité, notre valeur, notre vie tout simplement, est en sécurité dans sa vie qu'il a donnée pour nous. En Christ, nous sommes bien cachés. Jésus est notre signe de vie. Et donc ces deux éléments... Vous êtes ressuscité, votre vie est cachée en Christ, nous rappelle que constitue ce grand virage. Alors, qu'est-ce que cela change ? Vous êtes ressuscité en Christ, votre vie est cachée en Christ, notre positionnement en Christ, notre sécurité en Christ, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, Paul va nous le dire, et plutôt deux fois qu'une, au verset 1, recherchez donc les choses d'en haut. On s'aperçoit qu'il y a ce donc qui fait le lien, qui signale le passage entre le rappel de notre position en Christ et les conséquences de notre vie. Recherchez donc, parce que vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez donc les choses d'en haut. Et vous notez aussi que on passe à l'impératif rechercher, pas un ordre, mais une invitation de l'indicatif « vous êtes ressuscité en Christ », l'impératif « rechercher donc les choses d'en haut ». Puisque vous êtes bien positionné, puisque vous êtes des ressuscités dont la vie est bien cachée en Christ, recherchez les réalités d'en haut. Et plus loin aussi, dans le texte, il est dit « de toute votre pensée, tendez ». Là aussi un impératif, vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. En deux phrases, le virage est pris. Ce sont deux phrases qui sont très proches l'une de l'autre et je vais insister sur la première, rechercher les réalités d'en haut, et j'ai mis comme titre « Avoir une nouvelle vision des choses ». Parce que vous êtes bien positionné en Christ, vous pouvez avoir une nouvelle vision des choses. Et il me semble qu'il y a une invitation à lever les yeux vers le haut, à rechercher ou chercher à regarder les choses qui sont en haut. Et quelqu'un faisait remarquer avec beaucoup de perspicacité que ça devrait pas trop difficile pour le chrétien de regarder les choses d'en haut, puisqu'il y est déjà ressuscité avec Christ en haut. Nous l'avons vu, oui, nous sommes ressuscités avec lui. Et dans le Nouveau Testament, Paul va rajouter des choses aux Éphésiens. Il va nous dire, il va dire aux Éphésiens, Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Là aussi, c'est du passé, mais donc nous y sommes au présent. Alors évidemment, on se dit que tout ça, c'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes ressuscités en Christ. C'est par la foi qu'il nous a assis dans les lieux célestes. Mais dire par la foi ne veut pas dire que nous sommes dans la fiction, que nous sommes dans l'héroïque fantaisie. Non, il y a une réalité de la foi. Et dans la foi, nous sommes réellement ressuscités avec Christ. Maintenant, nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes. Et de là, il est tout à fait possible de regarder les choses d'en haut et d'avoir, d'en avoir une certaine vision, une nouvelle vision. Il y a un autre texte aux Philippiens où il dit, où il parle, où Paul parle des non-croyants. Eux, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais pour nous, notre citoyenneté, notre identité est dans les cieux, c'est-à-dire en haut, et de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est magnifique dans cette phrase de Philippiens, c'est le mot « de là ». De là, d'en haut. Alors je sais que les Français, dont je fais partie un petit peu quand même, ont quelques problèmes avec « ici et là ». Et souvent, ils confondent « ici et là », et ils disent « viens là », au lieu de dire « viens ici ». Il faudrait dire « va là » et « viens ici ». Mais souvent on dit « viens, viens là », n'est-ce pas ? Bon bref, mais quand Paul dit « de là », il dit vraiment « de là ». C'est-à-dire « de là-haut ». On est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et il faut bien noter aussi que Christ lui-même est assis à la droite du Père, ce qui signifie qu'il est souverain, qu'il est maître du monde, qu'il est maître de l'histoire et de mon histoire. Et donc, quand nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, là-haut, c'est être assis à côté de celui qui est le maître du monde, qui est le maître de l'histoire et qui est le maître de mon histoire. Et de ce point de vue-là, la perspective sur le monde, sur son histoire et sur mon histoire personnelle sera bien différente. Je suis assis dans les lieux célestes à côté de celui qui est assis à la droite de Dieu et qui a un regard sur le monde global, total. Et donc, d'en haut, ressuscité avec Christ, d'en haut, à partir de ces réalités célestes, je vais pouvoir regarder ma vie d'une manière différente. Parce que Jésus a donné sa vie pour la mienne, je vais pouvoir regarder ma vie non pas comme un laps de temps plus ou moins long où je me traîne, où je râle, où je me plains. Non, je vais pouvoir regarder ma vie comme un temps de reconnaissance pour ce que Dieu fait dans l'histoire de ma vie ou dans ma vie tout simplement, dans ce qu'il a déjà fait, dans ce qu'il a accompli pour le monde. Vu d'en haut, ma vie peut devenir un grand merci à Dieu. Vu d'en haut, ma vie peut devenir significative. Et vu d'en haut, mes relations avec les autres vont pouvoir changer et je vais pouvoir regarder les autres non pas comme des concurrents à mon épanouissement personnel ou des dangers pour mon identité personnelle, je vais les voir, les autres, comme des co-héritiers du royaume ou comme des citoyens potentiels de ce royaume. Et que quand je rencontre ces gens-là, parce qu'il nous arrive quand même dans ce monde, n'est-ce pas, de rencontrer des gens, si je les regarde à partir du haut de ces réalités célestes, je ne vais pas essayer d'imposer ma personne. Je ne vais pas essayer de marquer mon territoire ou mon identité. Je ne vais pas être constamment sur la défensive comme trop souvent nous le sommes. Je ne vais pas essayer non plus de les manipuler pour les faire arriver à mes petites fins personnelles. Non, quand je les regarde d'en haut avec cette nouvelle perspective, je vais pouvoir les aimer vraiment comme Sylvie a lu le texte de 1 Jean tout à l'heure, les aimer vraiment. Je vais peut-être même vouloir les accompagner sur leur bout de chemin. Je vais pouvoir leur pardonner s'ils m'ont offensé. Je vais même pouvoir les servir pour la gloire de celui qui est assis à la droite du Père. Oui, quand je regarde les choses de là-haut, mes relations interpersonnelles vont s'en trouver changées. Et puis, d'en haut, à partir de ces réalités célestes, ressuscité avec Jésus, je vais regarder la mort de manière différente, non pas comme une issue fatale qui viendrait marquer ma vie de la tâche indélébile de l'absurdité. Je ne verrai plus la mort comme quelque chose qui marque ma vie d'une peur viscérale. Non, du point de vue du Christ victorieux, du point de vue céleste de sa victoire sur la mort, je pourrai vivre les jours que Dieu me donne dans la paix et dans l'espérance qui est presque une assurance ou une assurance de la vie éternelle. Vu d'en haut, ma vie prend non seulement de la longueur, mais aussi de l'épaisseur, elle prend du sens. Toute ma vision des choses de la vie, mes relations, la vie elle-même et ma vision de la mort sera renouvelée si je les regarde d'en haut, d'où je suis vraiment, de là-haut. Alors j'entends ici des gens qui me diraient que tout ceci serait un petit peu trop optimiste, voire triomphaliste, et que le pauvre Éric devrait revenir les pieds sur terre. Et ils auraient raison, il faut rester les pieds sur terre. Mais la tête, elle, pourrait être un peu dans les nuages, malgré tout. Dans les réalités d'en haut. Sinon, je me dis que ça n'en vaut pas la peine. Et personnellement, moi, j'ai besoin de me retrouver la tête un peu dans les nuages, dans le ciel, dans les réalités d'en haut. D'apprendre à regarder les choses d'en haut et à le faire plus souvent. Parce que je vous donne un scoop ce matin, on est entre nous. J'ai l'air comme ça optimiste, jovial, mais je subis, comme tout le monde, les lois de la gravitation universelle et les lois de la pesanteur. J'ai mes inquiétudes, j'ai mes questions sur la place, sur ma place dans ce monde et dans cette vie. Je me plains même parfois, souvent. Je broie du noir et j'ai des pensées de la même couleur. Un peu comme tout le monde, je vis avec ces choses que je trouve tellement réelles, tellement terrestres et qui me tirent vers le bas. Mais quand un ami chrétien, quand une rencontre, quand un culte, quand un chant, quand une lecture d'un passage biblique ou d'un livre chrétien me rappelle ma position en Christ et que je me mets à regarder mes problèmes, à partir de cette réalité-là, eh bien, ces problèmes prennent une autre proportion dans ma vie. Ils ne disparaissent pas par enchantement, mais ils retournent à leur place qu'ils n'auraient jamais dû quitter, à la niche Médor. Alors, quand on me rappelle ma position en Christ, je me dis que si mon problème majeur, c'est-à-dire du sens de ma vie et de mon identité dans cette terre ou sur cette terre, si ces deux questions sont rencontrées en Jésus-Christ, alors je me dis que mes autres problèmes, mes autres questions qui sont désormais relatives, je vais pouvoir les vivre d'une manière relative, sans qu'il me déstabilise complètement, sans qu'il me fasse sombrer dans le désespoir le plus total. Je pourrais même parce que mes questions essentielles sont rencontrées ou répondues en Jésus-Christ, je pourrai même surmonter ces problèmes avec le temps, avec l'amour de mes proches, avec la prière des amis chrétiens, avec la communauté autour de moi, non pas parce que j'aurai reçu une bonne éducation chrétienne et protestante, mais parce que ma vie est cachée en Christ. Parce que mon signe de vie est en Christ. Parce que je suis en lui bien positionné, je pourrai vivre les problèmes de ma vie de manière différente. Et c'est important de se rappeler cette position en Christ, c'est même vital. Et vous pourriez me dire que tout est une question de point de vue et qu'il suffirait de changer de lunettes avec un flelou ou un autre. Mais ce n'est pas juste une question de lunettes, c'est une question de positionnement en Christ. Et ce matin, il faudrait peut-être venir nous repositionner en lui, nous recacher en lui, de venir ou revenir cacher sa vie en lui, de lui dire dans une prière, dans le secret de son cœur ou dans sa chambre cet après-midi ou ce soir, « Tu es mon signe de vie, je compte sur toi. » Le deuxième point, je passerai très vite, c'est, je l'ai intitulé, une nouvelle tendance. Après une nouvelle vision, une nouvelle tendance de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non pas celles qui appartiennent à la terre. Avec ce mot tendez qui exprime une tension, un engagement de la pensée vers ces choses d'en haut. Un effort à faire. En tout cas, une direction à donner à sa pensée. Mais je conclue. Depuis Ptolémée, c'est difficile à prononcer, astronome d'Alexandrie au IIe siècle, depuis lui, on croyait que la Terre, que le Soleil tournait autour de la Terre et que la Terre était le centre de l'univers. Et puis au XVIe siècle, un Polonais, un compatriote de Matthias, du nom de Copernic, est venu avec une autre théorie. C'est le soleil qui se trouve au centre et la terre tourne autour du soleil. Il y avait auparavant comme une erreur de position et de positionnement de la terre. Alors cela a pris quelque temps avec quelques grincements de dents, surtout du côté de Rome, du Vatican. Mais on a fini par croire, à adhérer à la révolution copernicienne. Et les mentalités ont changé, et les gens ont commencé à voir les choses différemment. Et ce fut le siècle de la Renaissance et de la réforme protestante. De même, avant de rencontrer Jésus, nous pensions être le centre de l'univers. Et on pensait aussi que le monde et les gens tournaient autour de nous comme des satellites. Et puis, Jésus est venu pour être le soleil de notre vie. Et notre position dans l'espace-temps, a changé. Nous nous sommes retrouvés en lui. Nous nous sommes repositionnés en lui. Nous sommes ressuscités en lui. Notre vie a été cachée en lui. Et notre vision des choses et notre tendance ont également changé. En position pour une nouvelle vie, c'était le titre de la prédication. À vos marques, prêts ? Dimanche prochain, on dira partez. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Amen. nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur, ce dernier repas que Jésus prend avec ses disciples avant d'être trahi, avant d'être jugé, condamné. Et puis après, il sera crucifié, il sera élevé sur une croix. Et peut-être que nous pourrions prendre ce repas en levant les yeux vers cette croix. Un peu comme le centenier romain lève les yeux vers cette croix et il dit « Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. » Regardons à Jésus élevé sur la croix, Dieu lui-même qui meurt pour donner sa vie, lui le Fils de Dieu qui meurt pour que j'aie, pour que tu aies la vie. Mais il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité, il a été vu par de nombreux témoins, et il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Et de là, la Bible nous le dit, il intercède pour nous. Et quand la Bible nous dit qu'il intercède pour nous, je ne pense pas que Jésus prie pour notre examen du bac, ou pour qu'il fasse beau demain, pour qu'on puisse partir tranquille en vacances. Mais son intercession, c'est sa vie. Son intercession, c'est sa mort. Et il est là auprès du Père et il lui dit, « Tu vois, je suis mort pour elle parce que je l'aime, je suis mort pour lui parce que je l'aime. » Son intercession, c'est sa vie, son œuvre, sa mort et sa résurrection pour chacun d'entre nous. Jésus intercède en disant, « Je suis pour elle, pour lui, son signe de vie. » Et je vous invite à chanter ce cantique qui s'intitule « Devant le trône » et qui nous parle de justement ce que je viens de vous dire. Il parle de ce défenseur qui défend notre cause au ciel et qui intercède pour nous. Je vous invite à vous lever pour le chanter.